C'est l'une des séries documentaires les plus anciennes de la télévision, Les Routes de l'Impossible. Cela fait 13 ans qu'elle est diffusée sur France 5, près d'une centaine d'épisodes déjà qui nous emmènent sur des routes chaotiques, dangereuses, vertigineuses. Mais pas seulement, elle nous permet également cette série de découvrir un pays ou une région, de parler de questions sociales, économiques. Eh bien ces Routes de l'Impossible reviennent pour les fêtes de fin d'année. Trois épisodes inédits diffusés à partir de demain. Bonjour Tony Comiti.
Bonjour Philippe.
C'est vous qui produisez Les Routes de l'Impossible. 13 ans, est-ce que vous attendiez une telle longévité? Pour dire les choses autrement, est-ce que vous attendiez à ce que la route soit aussi longue?
Non, il y a 13 ans, au début, avec Patrice Lucchini, qui est le directeur de la collection des Routes de l'Impossible, on pensait qu'on allait en faire 3 ou 4. Mmh. Mais l'audience est arrivée. France 5, on collait tout à fait à l'écriture de France 5 sur la découverte et l'aventure. Donc voilà. Mais on s'est dit, au départ, on va en trouver 3 ou 4. Et c'est compliqué de les trouver, les Routes de l'Impossible.
Bien sûr.
À force d'en faire, finalement, et avec les réseaux de correspondants qu'on a, eh ben, écoutez, on a le choix maintenant. Et voilà, donc,
Hier, on recevait Philippe Googler qui présente les trains les trains de l'impossible, les trains pas comme les autres.
Ouais,
et quand on voit l'émission, on n'a qu'une envie, c'est d'être dans ce train. Et moi, quand je regarde votre émission, j'ai qu'une envie, c'est de ne jamais aller sur cette route et surtout pas dans les camions et dans les bus qui font 50 mètres de long et que la route ne ferait pas passer un âne. Racontez, qu'est-ce que ça raconte, les Routes de l'impossible?
Écoutez, ça raconte d'abord la difficulté des gens qu'on filme, que ce soit en Colombie, au Brésil, au Ghana et tout ça, pour se déplacer. Ces gens-là, ils galèrent, mais c'est juste pour manger, quoi.
Ouais.
Donc, alors, ce qui est formidable, c'est que quand des reporters occidentaux débarquent au fin fond des forêts ivoiriennes, par exemple, ben, les gens, ils sont un peu effrayés de nous voir. Et finalement, on arrive à les convaincre. Et ils sont finalement, au bout du compte, ils sont fiers de nous montrer leur vie. Et ils sont fiers de voir qu'on s'intéresse à eux.
À les convaincre de quoi ?
D'être filmé, c'est pas si simple, hein, parce que aujourd'hui les journalistes avec les caméras, surtout occidentaux, quand on débarque dans des pays comme la Colombie, bon, ils vont parler de drogue. Quand on parle en Côte d'Ivoire, ils vont parler des hommes. Mais non, nous, ce qu'on essaye de faire précisément, c'est de partager la vie de ces gens-là, et on la partage tellement que finalement, ils nous font confiance et voilà.
Justement, demain, vous nous emmenez sur les routes de Terre Rouge de Côte d'Ivoire. On est avec les Ivoiriens, on les suit dans leur déplacement, pas toujours rassurant. À ce titre, la première séquence est complètement dingue. On voit des jeunes Ivoiriens qui font de la voltige sur des minibus lancés à pleine vitesse. Autre exemple, avec ce camion qui est conduit par Yako, c'est un sexagénaire. Il transporte une vingtaine de passagers, tous inquiets, alors qu'il doit parcourir quelques dizaines de kilomètres jonchés de trous et de ponts de fortune.
La route n'est pas bien longue, 45 petits kilomètres. Mais en cette période de pluie, Yaku met entre 6 et 8 heures pour atteindre le dernier village. C'est effrayant, mais c'est un exploit.
Tu connais son travail, tu as vu les ponts, comment il est passé. Si c'est les enfants, ils vont faire renverser les gens.
Dans la benne, chacun prend son mal en patience.
On ne peut pas s'asseoir. Moi-même, quand je suis arrêté debout comme ça me fatigue beaucoup. Ah, il y a des femmes et des enfants. Tu vois, le camion, là, ça penche comme ça. Là, nous-mêmes, on a peur.
Ce qui est fort dans vos reportages, Tony Comiti, c'est que ce n'est pas des caméras automatiques que vous utilisez. Vos journalistes sont au plus près des passagers.
Oui, alors là, dans le cas de Yaku, qui a ce vieux bus rafistolé, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le village où il habite, au fin fond de la Côte d'Ivoire, tout le monde participe à la réparation de son bus. Parce que sans son bus, il n'y aurait pas de communication avec les autres villages.
Ouais.
Et il vit là avec ses 6 enfants, et le fils aîné, son fils, donc Yaku voudrait que le fils aîné prenne la relève, parce qu'il est fatigué, il est vieux, il est épuisé. Et le fils aîné, lui, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, au fin fond de la Côte d'Ivoire, ils ont Internet. Et le fils de Yaku, lui, il rêverait plutôt de Booba, de la fouine, de faire de la musique, ou faire en tout cas des études. Et puis finalement, on verra à la fin du film que le fils de Yaku, finalement, il va essayer de prendre la relève de son père. Ce qui est formidable dans les Routes de l'Impossible, parce que maintenant, on évolue avec, surtout sur la forme, avec les drones, les caméras embarquées et tout ça. Et les Routes de l'Impossible, c'est pas de l'illusion et des interviews. Comme on partage la vie de ces gens-là, finalement, ils nous oublient complètement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce que j'appelle « passe-moi le sel ». C'est les discussions qu'il y a entre eux, qu'on capte, et après qu'on fait traduire. Et c'est comme ça, les Routes de l'Impossible. C'est qu'on partage tellement la vie de ces gens-là qu'on est avec eux, on est embarqué avec eux.
Ces Routes de l'Impossible vous permettent d'aller dans des endroits très reculés. Là, en l'occurrence, on était en Côte d'Ivoire, à la rencontre d'Ivoiriens qui ont une vie très difficile. C'est le cas de ses enfants. Vous parliez d'humains, des enfants qui travaillent dans des plantations de cacao.
À l'heure où la plupart des enfants prennent la direction de l'école, d'autres s'enfoncent dans la forêt. Jaurès, 11 ans, travaille sur la plantation de cacao de son père avec ses copains et le reste de sa famille.
C'est mes petits frères Pythagore avec Thalès.
Ils iront à l'école entre deux récoltes. En attendant, leur quotidien est harassant.
Je vais travailler dans notre champ de cacao. Je quitte le village à 5 heures du matin. Mais quand j'arrive, je suis déjà si fatigué qu'on dirait que j'ai déjà travaillé.
Il faut dire que Jaurès, Pythagore et Thalès marchent plus de 2 heures à travers la montagne.
Là, on est dans l'humain totalement.
Ben oui, les routes de l'impossible, c'est pas uniquement du baroud, hein, c'est qu'on regarde, on fait des pas de côté pour expliquer un peu comment fonctionne le pays, sans faire de la géopolitique. Donc c'est à travers les enfants. Moi, ce qui nous a étonné sur la Côte d'Ivoire, c'est l'extraordinaire énergie de la jeunesse ivoirienne. C'est eux qui relèvent le pays, en fait. Donc, alors évidemment, dans ces exploitations de cacao, où ils gagnent 1 euro par jour, ils savent, et ils voient que le prix du chocolat est très haut dans l'Occident. Et aujourd'hui, ils s'en rendent compte. Mais bon, ils continuent. Et lorsqu'il n'y a plus de récolte de cacao, ben, ils vont faire autre chose. Ils vont creuser pour essayer de trouver de l'or.
Ouais. Je voudrais qu'on entende quand même un son, parce que ce qui fait la force, on va l'entendre juste après ça, on marque une pause. Je voudrais qu'on entende un son qui fait vraiment très très peur, et puis aussi qu'on s'éloigne un petit peu de ça pour parler d'autres activités que vous avez, Tony Comiti, parce que vous êtes un très très grand producteur de télévision. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier?
On va dire 50 ans, c'est terrible.
Ça fait 50 ans que vous travaillez, vous avez quel âge?
70, j'ai démarré à 19 ans.
Tony Comiti est avec nous et la société de production qui porte son nom, Culture Média, continue. À tout de suite.
Urdel.
Nous sommes avec Tony Comiti, les routes de l'impossible. C'est demain soir à 20h50 sur France 5. Ça va se passer en Côte d'Ivoire.
Dimanche soir,
vous intéressez aux routes, mais aussi aux véhicules. Exemple, une sorte de minibus. On est en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Des véhicules qui sont souvent hors d'âge, rafistolés de partout. Mais ce qui n'empêche pas les chauffeurs d'aller vite, très très vite.
Les 60 km qui relient Ganoa à Gayo sont un cauchemar. Pour ne rien arranger, Zoom va garder le pied sur l'accélérateur. Il a une idée en tête. Enfin, si la mécanique tient le coup. Et sur cette piste, c'est loin d'être gagné.
Ça fait très très peur. Vous en avez tourné, Tony Comiti, c'est vous qui... Non, c'est pas vous qui tournez, maintenant vous êtes le patron.
Ouais, là c'est mon fils, Charles.
Mais vous en avez tourné vous-même?
Oui, j'ai tourné au début, les routes de l'impossible.
Vous avez eu peur?
Peur, la peur c'est d'avoir peur. Hein.
Je vais poser la question différemment. Vous avez plus peur sur un camion avec le précipice en bas ou quand vous étiez avec Pablo Escobar?
Ouh, quelle question. Moi je pense que quand on est derrière la caméra, on se protège beaucoup. Donc la peur où on l'a avant, ou c'est après on a du stress. Mais sur le moment, c'est plus ce qui se passe dans la caméra qui nous pousse, qui nous dirige. Oui, il y a des moments de stress là quand il y a eu cet accident en Côte d'Ivoire. Ce qui est extraordinaire, c'est que les gens ne voient même plus. On partage tellement la vie de ces gens-là qu'ils oublient la caméra. Donc on assiste là à une engueulade avec les passagers du bus qui disent tu allais trop vite, et le chauffeur dit non, j'allais pas trop vite. Il dit mais bah, c'est ton camion qui est pourri. Non, il est pas pourri. C'est la route qui est pourrie. Donc j'adore ces discussions entre eux.
Il vaut mieux.
Et ça c'est le vrai reportage quoi.
Si je puis me permettre, il vaut peut-être mieux se friter avec lui. Avec le chauffeur du bus qu'avec Pablo Escobar.
Oui.
Côte d'Ivoire, or et cacao pour quelques pépites, c'est le titre. Et justement, vous filmez des mines d'or artisanales, des grands trous dans la terre rouge et humide de Côte d'Ivoire, étayés quelques chétifs morceaux de bois. Ils descendent, ils travaillent, c'est très dangereux. Et là encore, on est au plus près de ceux qui s'échinent à trouver de l'or.
15 mètres plus bas, le risque est permanent. Mais qu'importe. Entre mourir de faim en cultivant du cacao ou devenir riche en affrontant le danger, le choix est vite fait. L'or est enfermé dans ces pierres. Celles qui en contiennent le plus se trouvent encore plus profond, vers 20 mètres.
Vous trouvez beaucoup d'or ici?
Pas assez, pas assez. Trouve un peu. Pas beaucoup.
Il y en a peu, mais toujours assez pour rêver.
On l'a entendu, il y a du danger, il y a de la peur, et pas seulement dans les bus, dans les camions, vous êtes au plus près. Il y a déjà eu des accidents sur des tournages?
Écoutez, je pense qu'il y a un bon Dieu hein, pour les reporters, pour les routes de l'impossible aussi, pour ceux qui voyagent. Là, par exemple, pour descendre dans le trou, c'est-à-dire où vous restez à l'extérieur du trou de la mine, elle est quand même à 30 mètres de fond, dans la boue, au milieu de... ça s'effondre. Ou bien vous restez à l'extérieur de la boue, ou bien vous de la mine, pardon, ou bien là, Julien Bolwell et mon fils Charles Comity se dit bon, ben on va descendre pour montrer qu'est-ce qui se passe en bas. Alors la peur, elle peut venir avant, ouais. Mais une fois qu'on est...
Non, ma question, c'était, est-ce qu'il y a déjà eu des accidents? Non, pour l'instant,
non,
rien.
Écoutez, grâce à Dieu, on n'a pas eu d'accident
en touche du bois. En 13 ans, 61 pays visités, on a fait le compte, 23 en Afrique, 21 en Asie, 16 en Amérique latine, 1 en Océanie, en l'occurrence c'était l'Australie, rien en Europe, rien en Amérique du Nord, pour quelle raison?
Parce que
les routes sont sûres ou pas envie de tourner là-bas?
Non, c'est parce que en Europe, si là on va partir en Ukraine, donc, mais parce que là, en Occident, les routes sont impeccables, sont voilà. Nous, ce qui nous intéresse, nos terrains de chasse, c'est au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Asie, au fin fond de l'Amérique du Sud.
Est-ce qu'il y aura une quatrième saison des routes de l'impossible l'an prochain, 14e?
Écoutez, France 5 est tout à fait aime beaucoup cette collection. Ouais. Et Catherine Alvarez et son équipe adorent cette collection, donc je vois pas pourquoi on arrêterait. Ce qui a été compliqué avec la coronavirus, c'est de se déplacer. Ouais. Mais on a trouvé des solutions pour passer d'un pays à l'autre. Voilà. En Colombie, c'est le Quai d'Orsay nous a aidé à monter dans un vol humanitaire. Mm-hmm. Donc non, on trouve les routes de l'impossible. Et si vous voulez, on écoute les gens qui voyagent. Et l'émission maintenant est connue dans le monde entier parce qu'on exporte partout. Donc les gens connaissent cette émission et sur les réseaux sociaux, ils nous racontent des histoires. Donc on s'inspire aussi beaucoup des gens qui voyagent et de nos correspondants. Je voulais juste, si vous voulez bien, Philippe, citer un de nos correspondants en Irak qui a disparu depuis 25 jours, qui s'appelle Assad El-Fakri, qui a été enlevé par des milices et on commence à être très préoccupés. Ça fait 25 jours qu'on n'a pas de nouvelles de lui.
Très très important, les fixeurs pour le travail sur le terrain. Redites son nom, plus on parle de ces gens, plus on a une chance de les sauver. Son nom,
Assad El-Fakri.
Vous dirigez une société, la société de production qui porte votre nom, Tony Comity Productions. Vous avez tourné beaucoup de sujets avec les policiers, avec les gendarmes. Et le mois dernier, vous avez signé une tribune avec d'autres producteurs, avec des directeurs de rédaction, avec des journalistes. Vous vouliez dénoncer les nouvelles conditions imposées par le ministère de l'Intérieur pour encadrer les reportages sur les forces de l'ordre. Élise Lucet était venue nous en parler ici même. Vous n'acceptez pas que le service de communication de la police puisse avoir le dernier mot sur votre montage final. Est-ce que vous avez pu en parler avec le ministère de l'Intérieur? Est-ce qu'il y a eu une rencontre?
Alors, il y a eu une discussion, évidemment, avec le ministère de l'Intérieur, mais ce n'est pas uniquement la police, hein. C'est partout maintenant, c'est-à-dire c'est la gendarmerie, mais c'est aussi la PHP, les hôpitaux de Paris, c'est partout. On a de plus en plus de difficultés pour tourner et faire notre métier de journaliste. Alors, ces protocoles, parfois, ils sont utiles. Moi, je dis qu'il faut pas jeter le bébé avec tout l'eau du bain. Il y a des problèmes techniques, mais bon, après, ils ont commencé à rentrer sur les lignes éditoriales et c'est ça qu'on n'accepte pas.
Élise Lucet nous en avait parlé ici, elle était à votre place à ce micro. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les gens au ministère de l'Intérieur?
Qu'ils allaient revoir leur position.
Votre société de production, vous l'avez créée il y a 27 ans, un peu plus d'un quart de siècle. Vous avez réalisé et produit des centaines de reportages, de documentaires diffusés sur quasiment toutes les chaînes françaises. Qu'est-ce qui a changé dans le métier en un quart de siècle?
En matière de
télévision?
Ben, ça évolue partout. Alors, ce qui change aujourd'hui, c'est aujourd'hui les gens ont pris conscience de ce que la télévision, de ce que le journalisme peut influencer sur leur vie. Donc, les réseaux sociaux et tout ça. Donc, ce qui change aujourd'hui, c'est que ça devient de plus en plus difficile de filmer, notamment derrière les murs de notre société. Ça devient très compliqué. Il y a partout des directeurs de communication qui font tout pour nous empêcher de faire notre travail ou pour utiliser notre travail. Donc, pour rester indépendant, ça devient compliqué. Alors, ce qui évolue, d'abord sur la forme, aujourd'hui, les nouvelles caméras, qui sont des caméras pratiquement de cinéma, les drones, les caméras embarquées, l'infiltration. C'est ça qui évolue, il faut s'adapter. Le journalisme, c'est avant tout s'adapter.
Vous avez été photographe au début de votre carrière, vous avez notamment pris des photos de l'ennemi public numéro 1, Jacques Mérine, c'était fin 77, alors qu'il était dans le quartier de haute sécurité de la prison de la santé. Vous disiez, on ne peut plus filmer hors les murs. Là, vous étiez arrivé, vous étiez dans les murs. C'était un coup, un scoop, comme on dit. Ça serait quoi l'équivalent de ce scoop maintenant?
Boumediene? Ben oui. La petite qui a été condamnée à perpétuité, là, qui est...
De la retrouver.
Il faut la retrouver, ça.
Mais est-ce qu'elle est vivante?
Ah ben ça, c'est une question d'enquête.
La femme d'Amélie Coulibaly.
Aujourd'hui, ça serait un scoop extraordinaire. Mais bon, on n'est pas chasseur de scoop. Mais quand un scoop, nous, ce qu'on essaye de chercher, c'est la vérité, d'accord ? Et la vérité à la télévision, c'est pas comme la presse écrite. Il faut aller sur le terrain et prouver par l'image.
Bien sûr.
Donc, un scoop aujourd'hui, ben voilà, ça serait plutôt elle, oui.
Vous savez quoi, Tony Comiti ? Quand vous l'avez, le scoop, vous venez ici nous le raconter.
Avec plaisir, Philippe.
Plaisir partagé. Merci beaucoup. Côte d'Ivoire, or et cacao pour quelques pépites. C'est le nouveau numéro des Routes de l'Impossible. C'est dimanche soir après-demain à 20h50 sur France 5. Et dans un instant,